Bonsoir. Les troupes ougandaises vont quitter le sol congolais dans 2 semaines. Annonce faite hier mardi 17 mai par le commandant des forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Muhoozi, sur son compte Twitter. Selon ce dernier, le retrait se fait selon l'accord initial conclu avec les forces armées de la RDC. L'officier ougandais précise tout de même que cette opération conjointe des tracts des ADF dans l'est de la RDC pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois. Si les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni décident de la prolonger. Du côté de Kinshasa, le gouvernement congolais a jugé prématuré ce retrait. Le porte-parole du gouvernement congolais souligne qu'une telle décision revenait au chef des deux États, signalant que les opérations conjointes UPDF et FRDC baptisées Opération Shuja, qui devraient durer 6 mois, ont été officiellement lancées le 30 novembre 2021. Quelle analyse faire de la déclaration du retrait des troupes ougandaises de la RDC? Nous en parlons ce soir avec Paul Babangu. Il est député national élu du territoire d'Irumu dans la province d'Elituri. Il est secrétaire général adjoint du parti politique Burek, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Paul Babangu, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, le député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et le professeur Chobert Agenunga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Professeur Chobert Agenunga, bonsoir.
Bonsoir.
À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 92.13. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le commandant de l'armée des terres ougandaise a annoncé hier mardi 17 mai sur son compte Twitter le retrait des forces ougandaises du territoire congolais dans 2 semaines environ, selon ce que le prévoit l'accord initial. Le lieutenant-général Muhoozi a fait savoir que l'opération Shuja, lancée fin novembre 2021, par les armées congolaises et ougandaises devrait durer 6 mois. Mais dans un deuxième tweet, l'officier ougandais a précisé que cette opération conjointe des tracts des ADF au Nord Kivu et en Ituri se poursuivrait même pendant encore 6 mois si les deux présidents, Museveni et Tshisekedi, décident de la prolonger. Autre détail avec vous, Papi Martial Mukeba et Dona Madimba.
Martial Papi Mukeba, bonsoir.
Bonsoir.
Quel crédit accorder aux déclarations de la partie ougandaise et comment les analyser?
Tout d'abord, il faut préciser que le général Muhoozi, commandant des forces terrestres ougandaises, qui est le fils aîné du président ougandais, est souvent présenté actuellement comme l'un des hommes clés du régime de Yoweri Museveni. Il est également décrit comme le vrai patron de l'armée ougandaise. Mais plusieurs sources sécuritaires et militaires disent que sa déclaration serait la conséquence de ce qui se passe sur terrain. Depuis quelques semaines, l'Ouganda demanderait à Kinshasa un déploiement supplémentaire de ses hommes dans la région des Beni et Anituri pour faire face à certains défis opérationnels. C'est notamment la poursuite des offensives contre les ADF avec des unités mobiles, tout en évitant d'abandonner les positions défensives et la sécurisation de certaines routes du Nord Kivu qui seront construites par DOT Limited, une entreprise indienne basée en Ouganda. Une demande qui n'aurait pas encore Kinshasa. D'autres sources militaires congolaises disent que 5 mois après sa nomination par les chefs d'état-major général des FRDC, les coordonnateurs des opérations conjointes FRDC-UPDF n'auraient jamais réussi les moyens nécessaires pour lui permettre de faire son travail, ce qui ne faciliterait pas non plus le travail de l'UPDF déployé en RDC. Mais d'autre part, dans la capitale ougandaise, plusieurs sources proches des officiels affirment que le Parlement ougandais mettrait la pression sur le gouvernement pour retirer ses troupes de la RDC à cause du coût de cette opération militaire.
Martial Papi Mukeba, comment cette annonce ougandaise est-elle reçue dans les zones concernées?
Après plusieurs années de tueries des civils à Beni et à Ituri, l'entrée de l'armée ougandaise sur le territoire congolais était saluée par plusieurs personnes. L'annonce du général Muhoozi a surpris nombreuses personnes qui considèrent que la fin de cette opération conjointe FARDC-UPDF devrait être sanctionnée par la neutralisation définitive des ADF, ce qui n'est pas encore le cas.
Quel bilan dresser alors finalement de l'action des forces ougandaises depuis leur arrivée en RDC?
Dans les territoires de Beni, plusieurs sources militaires disent que les grands bastions des ADF sont déjà conquis par la force conjointe FARDC-UPDF. Même cas aussi dans l'Ituri où 14 localités, jadis bastions des ADF, sont passées sous le contrôle des deux forces après 3 mois d'opérations conjointes. Il faut aussi dire que Benjamin Kisokirania et Salim Mohamed Rachid, deux chefs ADF, avaient été arrêtés juste après le début de ces opérations conjointes. Cependant, sur terrain, les tueries des civils se poursuivent par les ADF. Difficile donc de parler d'un bilan totalement positif. Hier, le porte-parole du gouvernement a parlé des avancées obtenues au cours de ces 6 derniers mois, mais Patrick Muyaya a ajouté qu'avant de décider de mettre fin à ce qui avait été convenu, il doit y avoir des réunions des états-majors qui doivent évaluer les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux.
Martial Papi Moukeba, je vous remercie.
Merci, Dona Madiba.
Merci à vous, Dona Madimba et Papi Martial Moukeba, Paul Babangou. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Vous êtes également secrétaire général adjoint du parti politique Burek. C'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Les troupes ougandaises vont quitter le sol congolais dans 2 semaines, annonce faite par le commandant des forces terrestres ougandaises hier mardi 17 mai. Quelle lecture vous faites de cette déclaration, Paul Babangou?
Merci madame la journaliste de cette opportunité de la parole que la Radio Capi nous accorde une fois de plus. L'annonce faite hier mardi 17 mai par le commandant des forces terrestres ougandaises, le lieutenant général Muhoozi, sur son compte Twitter, nous a fort étonné du point de vue de la forme. Madame la journaliste, il y a des principes des droits auxquels les traités et accords internationaux sont soumis. Il y a la négociation, il y a l'entrée en vigueur et il y a la fin de l'accord ou les traités internationaux. Le général Muhoozi n'était pas bien placé pour décider d'une manière unilatérale, déclara clairement sur son compte que ce processus de la force conjointe signée entre la République serbe ougandaise et la RDC devait prendre fin à cette date et il augmente encore au pays dans 6 mois, proroger les missions conjointes si et seulement si les deux chefs d'État se conviennent de poursuivre avec la traque des ADF qui constitue un mal ou un fléau dangereux pour notre sous-région. Madame la journaliste, nous osons croire c'est le président de la République ougandaise qui devait se prononcer ou bien même les ministres des Affaires étrangères, là, ça serait respecter les clauses même de cet accord ou traité qui lie les deux États à ce stade.
Paul Babangou, lorsque ces opérations ont commencé au Nord Kivu et en Ituri, ce n'est ni le président ougandais, ni le ministre des Affaires étrangères qui l'avaient annoncé. Vous vous dites être étonné du point de vue de la forme, mais c'est la même forme qui avait été utilisée pour annoncer les débuts des opérations en RDC. Pourquoi ça vous étonnerait cette fois-ci?
Bon, nous, ça nous étonne, madame la journaliste, parce que ce ne sont pas des canaux attitrés pour répondre à des accords et traités internationaux. Ça devait se passer normalement par les ministres et à la charge des affaires étrangères de la République ougandaise ou bien de notre part. C'est ça, et c'est que les droits internationaux publics nous enseignent, madame la journaliste. Mais à ce stade, comme en amont, c'était déclaré par la même personne, et aujourd'hui il arrive qu'il se décide de dire qu'en dehors deux semaines, l'accord ou le traité va prendre fin. Madame la journaliste, j'ose croire, la République démocratique du Congo, alors, nous sommes obligés de renégocier avec la République ougandaise notre accord supplémentaire qui va permettre à ce que la traque des troupes ougandaises soit une chose effective dans les deux provinces, les provinces Nord Kivu, la province de l'Ituri et surtout dans les territoires phares, les territoires d'Irumu et les territoires de Beni qui souffrent de cette affre, des attaques d'une manière intempestive de ces fléaux que l'ADF Nalu. Aujourd'hui, je vous informe, l'ADF Nalu, au lieu seulement de se limiter dans les territoires d'Irumu, compte tenu des attaques de la force mutualisée, l'ADF a atteint même les territoires de Mambasa. Ils sont proches, ils sont en train d'aller même vers la province de la Tchopo. Madame la journaliste, il y a un danger, il y a péril à la demeure.
Vous estimez donc, comme le gouvernement congolais, que c'est prématuré ce retrait des troupes ougandaises de la RDC?
Oui, j'ose croire, c'est tellement prématuré à ce terme. Madame la journaliste, dans cette mission conjointe, les ADF, c'est-à-dire cette force conjointe, a beaucoup agi dans le Nord Kivu. Les grandes bastions qu'on est en train de vanter ici, ce sont les bastions du Nord Kivu. Entre autres, nous avons trouvé les Nobili, nous avons trouvé les Mayangos et d'autres bases des ADF Nalu du Nord Kivu qui ont été inquiétées. Mais maintenant, comme conséquence, comme il n'y avait pas bouclier du comté de l'Ituri, tous ces ADF en amont, ils se sont déversés dans les territoires d'Irumu. Ils ont commis des actes graves et ignobles. Vu que, juste après, du contraire, même au niveau des commandes, il n'y avait pas une petite barrière pour les mettre à déroute, les ADF, maintenant, ils sont arrivés même dans les territoires d'Ndjougou, madame la journaliste, il y a un danger. La République démocratique du Congo, nous sommes obligés, et notre gouvernement, d'aller jusqu'au bout avec ce phénomène. Et si l'Ouganda s'est retiré, nous avons beaucoup de pays amis.
Pourquoi la RDC ne peut pas compter sur son armée au lieu de compter sur les armées étrangères, Paul Babangou? Notre armée est vraiment incapable de mettre fin ou de neutraliser ces ADF?
Madame la journaliste, vous êtes à ignorer plusieurs fois, vous êtes journaliste d'investigation. Cette armée de la République démocratique du Congo, FARDC, est tellement inféodée jusqu'aux dents. Vous en savez que cette armée est née de la cendre de différentes réponses à plat, alors nous étions obligés à travers les accords de prendre les anciens chefs rebelles ou bien rebelles des bandes armées, les associer dans l'armée nationale. Madame la journaliste, l'armée était féodée, l'affairisme jusqu'au sommet de l'armée. Pas plus tard, ça fait un mois et il y a un procès Panda à Ituri, dans lequel procès il y a même des officiers supérieurs des FARDC qui vendaient des armes. On les a attrapés à flagrant délit d'infraction, des ventes d'armes vis-à-vis des CODECO, avec telle armée, avec tels individus, si et seulement si on n'éradique pas la force armée. Cette force armée ne produit là seulement ce qu'elle paie, comme une belle femme ne produit seulement ce qu'elle a. Alors, madame la journaliste, il y a l'affairisme, il y a le népotisme, il y a le clientélisme, il y a même la politique au sein de l'armée qui fait à ce que nous avons des vaillants militaires. Ils n'atteignent jamais les objectifs leur assignés. C'est pourquoi le chef de l'État, lors des séminaires de la formation, a interpellé l'armée congolaise de produire les meilleurs, c'est-à-dire de mettre à déroute des petites bandes armées. Et même ces groupes rebelles étrangers, ADF Nalu, c'est parce que aujourd'hui il y a certains des officiers qui sont même à mèche avec les ennemis, même les ADF. Madame la journaliste, plus de 20 fois, on a arrêté les officiers militaires qui collaboraient avec les ADF au nord qui voient une tuerie jusqu'à preuve du contraire. Aucun procès ne s'est déjà organisé pour les condamner publiquement en termes pédagogiques, madame la journaliste. Avec cette armée, c'est comme ça, nous, les députés de la province de l'Ituri et du nord Kivu, nous sommes convenus de voir les chefs de l'État, de voir les premiers ministres, s'il y a moyen que la RDC puisse recourir à ces pays amis, la France et les autres, pour nous aider, parce que d'autant plus que dans notre armée, il y a quelques mots qui rongent. C'est comme ça que nous avions demandé. Et les chefs de l'État avec sa bonne foi, il a accepté pour la énième fois de coopérer avec l'Ouganda pour venir à rescousse de notre armée, de travailler la main dans la main à travers cette opération conjointe.
Merci.
Pour que nous puissions mettre à débarrade ces petits groupes armés, même étrangers, qui le font.
Professeur Chobert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani et spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et de sociologie militaire. Professeur Aguenonga, comment vous analysez cette déclaration du retrait des troupes ougandaises de la RDC? Du côté de Kinshasa, le gouvernement juge prématuré ce retrait.
Bien, je tiens à préciser que les troupes ougandaises sont entrées dans des conditions opaques. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les clauses de l'accord qui a autorisé leur entrée. Du coup, on se trouve en difficulté d'apprécier l'annonce du retrait de ces troupes. Et ensuite, il me semble que cette opération a été planifiée sur une courte durée. Et du coup, son alignement devient de plus en plus inutilement budgétivore pour l'Ouganda. Et comme on peut le constater d'ailleurs, au sein même des institutions ougandaises, les avis sont divisés. Et il y a le Parlement ougandais notamment qui réclame à corps et à cri la fin pure et simple de cette opération. Mais cependant, il y a lieu de préciser que il y a des nouveaux enjeux qui se sont ajoutés et qui permettraient une meilleure compréhension de cette décision. D'une part, il ne faut pas oublier le fait que les relations entre l'Ouganda et le Rwanda, qui étaient plutôt tendues, ont commencé progressivement à s'améliorer, comme on les constate d'ailleurs. Il y a eu des visites de part et d'autre côté. Le général Muhoozi, qui a annoncé le retrait de l'UPDF, s'est rendu à Kigali. Kagame lui-même a été à Kampala, alors que le rapprochement entre Kinshasa et Kampala visait, entre autres, à contrebalancer l'influence du Rwanda en RDC. Mais d'autre part, il y a une nouvelle donne qui vient de s'ajouter, et il ne s'agit ni plus ni moins de l'adhésion de la RDC à la communauté est-africaine EAC, suivie de l'option d'une force régionale qui serait en discussion à Nairobi. Mais pour l'instant, il n'y a que peu d'informations sur ces tractations. On n'en connaît ni l'architecture, ni la composition, encore moins le rapport avec la MONUSCO. À noter cependant qu'il est difficile pour l'instant qu'on envisage évidemment le désengagement total de l'Ouganda de l'Est de la République démocratique du Congo au regard évidemment de son intérêt dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous savons que l'Ouganda est en train de construire les transports routiers qui vont de Beni jusqu'à Rutshuru et nous sommes dans une zone en proie à des menaces sécuritaires. Donc du coup, l'Ouganda a tout intérêt à sécuriser cette zone et qui, du reste, constitue en même temps une plaque tournante importante pour le commerce avec l'Ouganda. Par ailleurs, au regard du maigre résultat obtenu depuis que les troupes ougandaises sont entrées sur le terrain, il y a de bonnes questions à problématiser ces retraits. Donc cette décision paraît plutôt comme improvisée parce que l'objectif était entre autres de mettre un terme à l'activisme de présumé ADF. Or le diagnostic sur le terrain montre que les ADF sont entrés progressivement d'étendre leur périmètre d'action vers le territoire de Mambasa. Et il y a risque même que les ADF puissent étendre leur théâtre de violence jusqu'en province de la Tchopo.
Mais professeur, plusieurs sources militaires du côté congolais et même du côté de l'Ouganda disent que les grands bastions des ADF ont été conquis par la force conjointe FRDC et UPDF dans la province de l'Ituri. 14 localités jadis bastions des ADF sont passées sous le contrôle des deux forces après 3 mois d'opérations conjointes.
Cette information contraste étrangement avec les dynamiques du terrain. Il y a une semaine, les ADF ont tué autour de la localité de Loloa et des véhicules ont été incendiés. Je pense que pour ça, il ne faut pas porter les lorgnons. De comprendre que la mutualisation des forces n'a produit que de maigres résultats. Et pour plusieurs raisons, d'ailleurs, il y a eu une faible coordination des opérations, une faible planification On se rappellera que l'armée ougandaise avait engagé des frappes aériennes le 30 novembre à partir du sol ougandais sans déployer des troupes sur le sol congolais. Vraisemblablement, ça aura été une occasion pour les ADF d'adapter leur stratégie à ces mutations. Elles se seraient fragmentées maintenant à des ordres pour essayer de s'adapter aux nouvelles opérations qui les visaient, donc qui ont été lancées à leur encontre. Donc le constat sur le terrain est tel que les ADF sont entrés par contre de gagner du terrain, mais beaucoup plus dans la profondeur du territoire de Mambasa, et c'est là simplement parce qu'il y a eu une mauvaise coordination. On n'a pas pu couper la ligne d'approvisionnement au présumé ADF. On n'a pas pu non plus contrôler toutes les voies par lesquelles ce présumé ADF pouvait s'échapper par le mail de filet. Donc c'est ce qui leur a permis de se réorganiser et de continuellement perpétrer des opérations, notamment en territoire de Mambasa et en territoire d'Irumu.
Professeur Chobera Nyenunga, certains experts estiment que les troupes ougandaises ont rempli leur mission qui n'était pas celle de mettre fin, neutraliser les ADF, mais c'était plutôt de les repousser des frontières ougandaises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent ainsi?
Il est pour l'instant difficile, comme je le disais, d'apprécier cette analyse, d'autant plus que nous n'avons pas pris connaissance de l'accord qui a autorisé l'entrée de ces troupes. On ne connaît pas exactement quels étaient les objectifs assignés à la mutualisation des opérations. Par ailleurs, même si on pouvait croire naïvement que l'Ouganda pouvait aider les FRDC à éradiquer les présumés ADF, il faut plutôt souligner que les intérêts de l'Ouganda ne seraient pas plutôt de voir le présumé ADF quitter ou de mettre un terme à l'activisme de présumé ADF. Par contre, l'Ouganda lui-même aussi trouve son intérêt dans la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo permet à l'Ouganda d'exercer évidemment son influence dans cette partie de la République démocratique du Congo et qui semble de plus en plus échapper au contrôle des institutions de la RDC.
La réalisation me signale que c'est difficile d'avoir Jean-Baptiste Muindo Kasekwa. À la place, on a Edgar Mateso, premier vice-président de la coordination provincial de la société civile du Nord Kivu. Edgar Mateso, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs et aux auditeurs.
Alors Edgar Mateso, quelle est votre lecture de la déclaration faite hier mardi par les commandants des forces terrestres ougandaises, le lieutenant général Muhoozi, qui a annoncé le retrait des troupes ougandaises sur le sol congolais dans 2 semaines?
Oui, en fait, c'est douloureux de l'apprendre, mais il faut noter que c'était prévisible, parce que la voie par laquelle ces forces sont entrées n'a pas été officielle ou logique, c'est-à-dire du côté du Parlement congolais. On n'a pas suivi la voie régulière pour faire entrer une armée étrangère, et du côté ougandais même, on n'a pas suivi la voie officielle. Et quelques mois après, nous avons appris que le Parlement ougandais avait même refusé qu'on puisse décaisser de l'argent pour soutenir ces opérations mutualisées. Et par conséquent, on ne pouvait pas savoir continuer à supporter cette armée sur les sols étrangers, alors que le Parlement ougandais n'a pas autoriser que l'on puisse décaisser de l'argent pour ces genres d'opérations. Et du côté congolais, on l'a aussi constaté plusieurs fois que leur entrée n'a pas suivi la voie normale pour que l'on puisse faire entrer une armée étrangère sur les sols congolais. Et donc c'était prévisible que ces forces étaient flottantes sur le sol congolais et que d'un moment à l'autre, elle pouvait retourner. Et deuxième élément, il faut souligner que il s'est organisé un flou sur le plan opérationnel, parce qu'il y avait plusieurs commandements sur terrain, alors que ces opérations pouvaient être menées dans une zone où il y avait déjà une armée d'abord locale qui devait travailler, mais cette armée qui avait son commandement, nous avons le commandement des opérations Sokola, et eux, quand ils arrivent pour pouvoir opérer, ils se sont butés également à un autre commandement congolais de la mutualisation des forces, bien entendu, aux côtés des autres commandements des FAIB, par exemple, ou des contingents qui étaient aussi dans la région. Alors, aux côtés de ces commandements Sokola, aux côtés des commandements des forces mutualisées.
On peut dire qu'il y avait une mauvaise coordination de ces opérations.
Exactement. Donc, avec ce genre de coordination, il n'était pas vraiment possible que une force étrangère puisse travailler et produire les résultats escomptés.
Six mois après le début de ces opérations Edgar Mateso, quel bilan vous pouvez dresser? On sait que lorsque l'armée ougandaise est entrée sur le territoire congolais, cette entrée était saluée par plusieurs personnes. Quelque temps après, les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri ont commencé à se plaindre d'un certain relâchement du côté des opérations. Pensez-vous qu'il y a eu des avancées dans la traque des ADF depuis le lancement de ces opérations?
Madame, on parlerait des avancées si, depuis qu'ils sont arrivés, on pouvait constater l'arrêt des hostilités ou alors l'arrêt des massacres. Mais ce qui étonne, c'est que, à dépit de leur présence, les massacres ont continué, se sont renforcés, même dans les zones qui étaient sous leur contrôle. Parce que dans la chefferie de Ouattalinga, les massacres se sont multipliés. Dans le secteur de Rwenzori, les massacres se sont multipliés et les actions d'incendie de véhicules ont continué sur la route Beni-Kassindi et sur la route Eringeti-Komanda, alors que c'était des zones où ils étaient supposés mener leurs opérations. Et donc, il est difficile vraiment de parler de bilans acceptables depuis qu'ils sont arrivés. Bien au contraire, les choses se sont empirées.
Mais plusieurs bastions des ADF ont été récupérées quand même par la force conjointe FARDC et UPDF, Edgar Mateso.
Une fois arrivé sur terrain pour constater que les localités qu'on a toujours présentées comme récupérées n'ont jamais été réoccupées par la population, parce que les déplacés sont à Beni, les déplacés sont à Butembo, les déplacés sont à Kassindi, les déplacés sont à Oicha, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur village, dans leur champ, parce qu'ils continuent à craindre pour leur sécurité. Et d'ailleurs, s'ils osent y rentrer, ils savent que les massacres s'organisent. Vous voyez, par exemple, à Nobili, à Kamango, c'est à quelques mètres, à quelques kilomètres de la position de ces forces mutualisées. Voilà pourquoi nous, les résultats, nous les voyons par les faits. On devrait voir la population rentrer dans ces villages, la population réculturer ces champs et la population pouvoir se mouvoir sur les routes qu'elle était en train de fréquenter avant le massacre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'attarder sur ces axes malgré la présence des Ougandais, malgré la présence des Congolais, malgré la présence de tous les étrangers qu'on retrouve dans le cadre de la sécurisation de cette population.
Edgar Mateso, le gouvernement congolais a jugé prématuré ce retrait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en fait, lorsque le gouvernement congolais parle de retrait prématuré, nous pensons que ce n'est pas suffisamment responsable parce que on ne va pas continuellement compter sur des armées étrangères pour sécuriser notre pays. Et ce ne sont pas des étrangers qui viendront mourir pour nous. Nous devons capitaliser notre économie, notre force dans les Congolais eux-mêmes. Et à ce moment-là, c'est pourquoi nous avons toujours insisté sur la réorganisation de notre armée. Donc le problème, c'est un problème d'hommes au sein de nos forces armées. Si nous arrivons à responsabiliser notre propre armée, on n'aura pas besoin des étrangers pour nous sécuriser.
Paul Babangou, on va suivre cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Monsieur Boucher Moussouli depuis Kinshasa. Les retraits de toutes Ougandaises sur le sol congolais ne doit pas être une décision prématurée de la part des autorités congolaises dans la mesure où, à l'intérieur de notre pays, la RDC doit avoir son armée capable de faire face à toute attaque rebelle venant de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Comment comprendre un grand pays comme le nôtre qui est toujours référé aux pays voisins pour sécuriser son territoire contre les groupes armés qui ont eu domicile dans nos forêts, collines et montagnes? Il est impérieux que les autorités du pays pensent à réorganiser notre armée, les équiper et les mettre dans de bonnes conditions. Les Congolais sont fatigués des tueries récurrentes à l'est du pays.
Paul Babangou, réaction.
Merci madame la journaliste. Je viens d'écouter les compatriotes de Kinshasa par rapport à sa préoccupation. Madame la journaliste, l'armée, d'après la constitution de la RDC, a pour mission primordiale la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. C'est l'expression même de l'État. Madame la journaliste, à ce jour, nous recourons à des forces mutualisées ou bien à des accords avec les pays amis, d'autant plus que l'armée a, il y a certains membres au sein des FARDC font assez que nous n'atteignons pas les objectifs ultimes assignés pour les FARDC en RDC. C'est pourquoi, madame la journaliste, moi j'avais déjà proposé pour organiser l'armée en République démocratique du Congo, l'aide de l'armée, c'est les renseignements militaires. Madame la journaliste, les renseignements militaires ne fournissent pas grand-chose au commandant suprême. Comment, dans une armée, au 21e siècle, on ne sait pas même déceler les noms des militaires qui jouent les double G. C'est-à-dire, ils sont là, sous les drapeaux nationaux, mais ils traitent d'une manière étroite avec les forces négatives qui anéantissent l'État. C'est-à-dire, nous sommes à la face d'une armée qui joue les double G. Et à ce sens, le commandant suprême doit prendre des mesures qui s'imposent pour réorganiser cette armée. C'est-à-dire, le commandant suprême doit, non, je ne peux pas quand même l'obliger, il peut, comme il est le commandant suprême, il peut, au sein de cette armée, organiser cette chaîne de commandement. Cette même chaîne de commandement, ils ont échoué depuis les années 2014 jusqu'à nos jours.
Alors cet auditeur, est-ce que cet auditeur a raison lorsqu'il dit qu'il faut compter sur notre propre armée au lieu de compter sur les forces étrangères?
Madame la journaliste, il a parfaitement raison, même à 90%. Vous allez savoir, dans les systèmes immunitaires, comme les médecins disent, les anticorps sont les membres de la force armée qui doit protéger le corps. Même si on recourt à des molécules médicales pour juste renforcer, dans le but de renforcer les anticorps, combattre tous les ennemis qui pourront déranger les systèmes même elles-mêmes. Alors, ces armées-là, nous ne faisons pas foi à des armées, à des forces étrangères, qui est notre armée, pour lesquelles la population congolaise paye ses impôts tous les jours, même ceux des deux provinces. Madame la journaliste, il y a lieu d'organiser l'armée. Il y a la justice militaire aussi qu'on doit vraiment très bien contrôler parce que la justice militaire élève la nation, la justice militaire est capable de condamner tous les affairistes au sein de l'armée et l'armée sera vraiment républicaine. L'armée aura la force de défendre sans désapparaître les intérêts des compatriotes, madame la journaliste.
Professeur Chebeha Genunga, on va se rendre à Bukavu pour écouter cet autre auditeur.
Fikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. La déclaration du retrait des troupes ougandaises en RDC annoncée par le général Muhoozi via son compte Twitter prouve à suffisance qu'il n'y a jamais eu un accord au préalable avant l'entrée des troupes ougandaises. Si seulement il y avait un accord entre les deux présidents, Ce n'est pas ainsi qu'on devait mettre un terme à cette mutualisation des forces. La source aux yeux que l'Ouganda est entré en RDC avec un objectif, et à tout moment qu'il se sente menacé, il peut revenir comme bon lui semble. C'est inadmissible, voire humiliant pour un grand pays comme le nôtre, et nos voisins sécurisent leurs frontières à l'intérieur du territoire congolais. L'objectif de l'Ouganda était d'éloigner ces incivils de leurs frontières. Pendant ce temps, l'Ouganda a réussi un coup, celui de disperser ces derniers à l'intérieur du territoire congolais, où ils étaient sans pitié. La sécurité du Congo dépend de notre capacité et non de la mutualisation des forces. Les autres viennent en appui. Notre devoir en tant qu'État est de compter sur nous-mêmes, sinon nous risquons de disparaître.
Prof. Soubera Igenunga, un commentaire sur le point de vue de Fikiri Tshomba.
Je suis bien d'accord avec lui. La sécurité de la République démocratique du Congo ne doit pas être assurée par les puissances étrangères. Il nous appartient à nous de nous doter de capacités de sécurité et de défense effectives. Donc pour cela, moi je pense qu'il faudrait davantage travailler en termes de la montée en puissance des FRDC et pour nous permettre de contenir efficacement les menaces aussi bien endogènes qu'exogènes. Donc pour y parvenir, il faut la restructuration de notre armée autour des commandements et des unités aguerries, des militaires motivés et équipés que nous devons envoyer au front pour qu'ils soient efficaces et pour qu'ils mettent un terme à cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré. Il faut par ailleurs la mise en place des mécanismes d'alerte précoce, ce qui permettrait une meilleure collaboration en civilo-militaire, car notre constat dans la région, c'est qu'il n'y a souvent pas une bonne collaboration entre les civils et les militaires. Or, et l'armée fait face à une guerre asymétrique qui ne peut que se gagner avec la population. Mais nous constatons tout de même que ces menaces ont des racines situées à l'extérieur du pays. C'est là où je serais tenté, évidemment, d'encourager les institutions de la République démocratique du Congo davantage de travailler sur le front diplomatique pour échanger des renseignements sur les menaces présentes ou éventuelles sur la République démocratique du Congo et davantage pour couper les sources d'approvisionnement des groupes armés à partir de l'extérieur du pays. Donc c'est là où je crois que la République démocratique du Congo devrait s'ouvrir aux puissances régionales, non pas dans le but de les amener à venir se substituer en lieu et place de notre armée, mais en revanche, dans une simple collaboration en termes de renseignement.
Edgar Matesso, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma en province du Nord Kivu. Retirer les forces ougandaises présentes ici chez nous en République démocratique du Congo pendant que le massacre continue et se sont d'ailleurs multipliés nous laisse perplexes, surtout dans l'ambiguïté, nous la population. Nous nous demandons deux questions. La première, l'UPDF a-t-elle accompli la mission pour laquelle elle a été dépêchée ici en République démocratique du Congo dans la partie est? Et la deuxième question que nous nous demandons, quelle alternative les gouvernements comptent mettre en place pour bien sûr remplir le vide de l'UPDF? Nous, la population de l'est, surtout du Nord Kivu et de l'Ituri, n'avons besoin que de la paix. Nous en avons marre de l'insécurité.
Edgar Matesso, comment vous répondez à Moïse Angui depuis Goma, qui se demande si la mission pour laquelle l'armée ougandaise a été déployée en RDC a été accomplie? Deuxième question, il demande quelle pourrait être l'alternative lorsque l'armée ougandaise va quitter le territoire congolais?
Oui. Il est possible que l'UPDF ait déjà accompli sa mission. Lorsque cette armée entrait dans notre pays, l'Ouganda était en tension diplomatique avec le Rwanda. Mais une fois au pays, il y a une réconciliation et le M23 a repris son activisme. Et on peut dire que les relations diplomatiques entre l'Ouganda et le Rwanda et a repris. L'ami de mon ami, étant mon ami, l'ennemi de mon ami étant mon ennemi, on pourrait comprendre que l'Ouganda a dirigé sa tension contre le Rwanda et vice-versa.
Ça, c'est votre analyse. Oui, par rapport à l'alternative.
Par rapport à l'alternative, même si nous avions les mêmes objectifs avec l'UPDF, on ne pouvait pas aboutir au résultat aussi longtemps que les forces armées avec lesquelles l'UPDF mutualise ses forces sont composées des militaires qui ont été mixés, des militaires qui ont été brassés à partir du RCD, à partir du CNDP, à partir du M23, on ne peut pas aboutir aux résultats escomptés par les Congolais. Par conséquent, il faut qu'au niveau du Congo, on puisse revenir à la recomposition même de notre armée et rechercher les enfants qui ont été recrutés régulièrement et les responsabiliser pour qu'ils puissent combattre l'ennemi.
Merci.
Et aussi longtemps qu'on va utiliser les mêmes forces armées pour combattre le même ennemi, quelle que soit la force qui viendra pour mutualiser avec les phares de feu, on va aboutir au résultat auquel nous assistons aujourd'hui.
Merci Edgar Matesso. Nous sommes à la fin de l'émission. Paul Babangou, l'officier ougandais, le lieutenant général Mozi, a précisé que cette opération conjointe de traque des ADF dans l'est de la RDC pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois si les présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni décident de la prolonger. Vous, en tant que député national, vous avez analysé la situation depuis le début de ces opérations. Pensez-vous qu'il faille prolonger cette opération conjointe?
Madame la journaliste, c'est tellement nécessaire, d'autant plus que nous avons les mêmes intérêts avec l'Ouganda. Les intérêts économiques vis la position de l'Ouganda pour les deux provinces, la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et d'ailleurs, il y a des tronçons routiers que la République ougandaise, avec la coopération de la RDC, ils sont déjà entamés pour la province du Nord Kivu, et nous attendons aussi pour que les mêmes opérations des conseils de route qui doivent lutter contre les sécurités des Kengezi base jusqu'à Anyanya soient réalisées dans la province de l'Ituri. Et je pense, Madame la journaliste, le chef de l'État doit prendre le taureau par la corne. Nous demandons à ce qu'il puisse mettre de côté tous les affairistes militaires, faire les inventeurs sérieux des armes et des tenues qu'ont déposé la force armée depuis 2014 au Nord Kivu à Ituri jusqu'à ce jour, et mettre hors d'état de nuire les membres au sein des forces armées qui ne produisent rien pour la République, tels que certains de membres au sein des renseignements militaires.
Merci Paul Babangou. Professeur Sobera Guenonga, faut-il prolonger cette opération conjointe?
La question est loin de s'orienter vers les opérations conjointes, mais je pense que la préoccupation majeure devrait se traduire en termes de l'amélioration de la capacité opérationnelle de FRDC, parce que c'est l'armée congolaise qui est en charge de la sécurité du pays et aussi de l'intégrité territoriale. Donc du coup, il ne faudrait pas compter sur les puissances extérieures, il faut plutôt compter sur les FRDC et la PNC, et pour cela, nous devons absolument corriger les dysfonctionnements internes à notre armée. Nous devons améliorer le moyen, notamment la prise en charge, pour permettre une montée en puissance de notre armée. Je suis viscéralement convaincu qu'une fois que les FRDC vont monter en puissance, cela va décourager toutes les hordes et les bandes de criminels qui sont en train de semer la terreur et la désolation dans l'est de la RDC.
Merci, professeur Aguenonga. Edgar Matesso, votre conclusion.
Oui, moi je pense que on doit d'abord évaluer ces opérations menées par l'UPDF. Il faut également évaluer toutes les autres opérations menées par les Congolais et éviter de compter sur l'extérieur, mais plutôt responsabiliser les Congolais. Prenez les enfants congolais et leur donner la mission d'éradiquer ces phénomènes au on va aboutir au résultat. Mais s'il faut continuer à compter sur des étrangers, c'est une perte de temps, c'est une perte de moyens et c'est exposer inutilement les Congolais à la mort. Mais si nous prenons les Congolais de sang, des Congolais qui comprennent leur douleur, leur misère, il faut en un clé d'œil éradiquer ce phénomène parce que eux comprennent leur misère,
merci,
ils comprennent
Edgar
leurs problèmes et ils vont s'engager radicalement pour l'éliminer.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba et Martin Sebujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. Patrick Kiasongwa était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.